Donc, effectivement, donc mon nom est Marie-France Rossignol, je suis enseignante formatrice et j'interviens principalement dans les nouveaux masters d'enseignement, que cela soit dans, dans le master MEF Lettres, Histoire, Géographie, Anglais de l'Académie de Créteil ou dans le master MEF Lettres Modernes des universités de l'UPEC, de P8 et de P13, toujours de la même académie. Voilà. Et c'est à ce titre-là aussi que je suis invitée aujourd'hui et aussi parce que mon travail de thèse m'a amenée à beaucoup réfléchir sur la construction de la fameuse culture humaniste chez les élèves et en particulier chez les élèves de lycée professionnel et la manière dont cette culture humaniste était prise en charge en français et en histoire géographie puisque dans le modèle de l'enseignement du lycée professionnel, les enseignants sont bivalents et sont donc aptes à pouvoir construire sur ces deux disciplines la culture humaniste, puisqu'il y a un enseignant unique, alors que les choses ne se posent pas du tout de la même façon, bien évidemment, en collège et en lycée général. Donc mon travail a consisté notamment à comparer ce qui se jouait en français, en histoire, lorsque l'on était face à un enseignant unique ou lorsque, au contraire, on était face à deux enseignants différents prenant en charge les deux disciplines différentes. Alors, j'ai choisi de vous présenter une partie précise de ma thèse qui est beaucoup plus ciblée sur l'enseignement en lycée professionnel. Je serai très brève sur le côté comparatiste avec le collège et le lycée général, mais je vous donnerai quand même quelques pistes. Donc, j'ai intitulé ma communication « Enseigner la littérature en lycée professionnel » pour rendre hommage au point de départ à une étude qui a été menée en 2007 sur les PLP Lettres Histoire, menée par Anne-Raymonde de Baudrat et son équipe, et qui est une des rares études dont on dispose pour comprendre l'enseignement de la littérature au lycée professionnel. Cette étude, je la récapitule très rapidement pour vous montrer ce que ma recherche a essayé de faire à partir de là. Elle permet d'éclairer déjà l'identité spécifique des enseignants de lettres histoire, c'est-à-dire que l'étude a montré que 80% de ces enseignants sont de valence historienne et qu'ils n'ont donc pas un accès direct et une formation vraiment à la littérature au départ et qu'ils doivent se former comme ils le peuvent et très souvent en autodidacte, il faut bien dire les choses. Bon. Elle a montré aussi cette étude que les savoirs littéraires de ces enseignants étaient essentiellement constitués d'outils d'analyse de texte et quelques notions d'histoire littéraire, mais avec des lacunes qui touchaient au genre et aux auteurs. Les auteurs privilégiés pour ces enseignants, c'est les auteurs du 19e siècle, et ce n'est pas certain que ce soit l'entrée en littérature la plus facile d'accès pour leurs élèves. Voilà. Une connaissance aussi assez insuffisante dans le domaine de la langue. Aucun des enseignants qui ont été interrogés dans cette enquête n'évoque la dimension esthétique de la littérature, ce qui évidemment interroge bien évidemment les spécialistes des lettres. Et finalement, ils ont tendance, avec leur identité historienne d'origine, à réduire la littérature à un aspect référentiel. Et cette réduction peut donner lieu à un certain nombre de dérives technicistes ou une pratique strictement documentaire de la littérature. Trois affirmations ont été aussi mises au jour dans cette étude. C'est que l'enseignement de la littérature a vraiment sa raison d'être en lycée professionnel. Les enseignants font référence à leur propre parcours d'élève, même s'ils ne se sentent pas très aguerris pour enseigner la littérature. Ils en ont un bon souvenir dans leur scolarité et ils tiennent à la promouvoir auprès de leurs élèves. Ils refusent aussi l'élitisme et l'ostracisme dont seraient frappés les élèves s'ils n'avaient s'ils ne bénéficiaient pas de cet enseignement de la littérature. Leur autre affirmation, c'est que cet enseignement est spécifique au lycée professionnel. Cet enseignement doit absolument partir des élèves. Le professeur a à s'effacer et même peut-être effacer ses propres savoirs, mettre un peu de côté le contexte générique, le contexte socio-politique de l'œuvre, voire la vie de l'auteur, pour surtout accompagner l'activité de l'élève autour de la littérature. Dernière chose, pour eux, la littérature en lycée professionnel n'a pas la même finalité qu'en lycée général. Elle doit faire le lien avec le professionnel, elle doit contribuer essentiellement à la formation des citoyens, et c'est une finalité qui est très générale, qui est partagée d'ailleurs avec l'histoire, et qui n'est pas propre à la discipline française d'ailleurs. Alors, ce bilan montre quand même un certain nombre de risques d'une instrumentalisation de la littérature dans l'enseignement du lycée professionnel, d'un affadissement à la seule finalité citoyenne, et peut-être même d'une mise de côté de certains savoirs littéraires au profit d'une activité des élèves bien diligentés. Alors, cette année nous sépare de cette enquête, et entre-temps, nous avons vu l'instauration en 2009 des nouveaux programmes de français de baccalauréat professionnel, lesquels réinstallent encore plus lisiblement qu'en 1995, j'y reviendrai, la prescription de l'enseignement de la littérature. On supprime même toute référence explicite au métier. Et du coup, la question de la maîtrise de la didactique de la littérature pour les enseignants de lettres-histoire se pose avec une acuité nouvelle, parce qu'ils ne sont pas plus spécialistes de la littérature qu'il n'y a 7 ans. Ils restent toujours, en grande majorité, de Valence originaire, historienne. Bien. Alors, on assiste donc à une disciplinarisation accrue de l'enseignement du français, qui tend à se modéliser sur l'enseignement général, et donc ce qui finalement intensifie une certaine pression sur l'enseignement de la littérature par ses enseignants de lettres-histoire, et ça tend aussi à faire évoluer leur identité. Cette pression est indéniable, puisque je vous rappelle rapidement les principales résistances du public de lycée professionnel, qui est essentiellement issu de milieux populaires, à la lecture littéraire. Vous avez, on peut peut-être pointer rapidement trois types de résistances de ce public. C'est que ce public n'envisage guère la littérature comme une pratique sociale vivante, mue par des acteurs sociaux. Il la considère plutôt comme un patrimoine figé, réservé à une classe privilégiée, un patrimoine très éloigné de leur vécu. Deuxième écueil, c'est que pour eux, c'est que lire la littérature suppose l'identification de références culturelles qui soient communes. Or, ces élèves ne sont pas en mesure de mobiliser les inférences nécessaires à la construction du sens du texte littéraire, a priori. Troisième écueil, c'est que ces élèves, on a montré que les élèves de milieux populaires ont tendance à surinvestir le texte émotionnellement, à accorder surtout à la lecture une dimension psycho-affective beaucoup plus qu'une dimension rationnelle, et ça ne correspond bien évidemment pas aux attentes d'une lecture littéraire scolaire. Donc la recherche que je vais vous présenter a été menée entre 2011 et 2013, donc elle est récente, et paradoxalement, elle n'a pas voulu explorer les écarts et les tensions qui traversent l'enseignement de la littérature en lycée professionnel depuis les prescriptions de 2009, écarts que je viens de vous présenter très rapidement. Mon pari a été inverse, en fait. J'ai choisi de regarder de plus près les pratiques enseignantes qui réussissaient. C'est-à-dire, j'ai mené une enquête qualitative auprès d'une vingtaine d'enseignants que j'ai nommés les humanitatis professores. C'est pour ça que je les ai mis en sous-titre de mon intervention. C'est-à-dire des professeurs qui, finalement, assument assez bien leur double valence et accueillent de façon très privilégiée la littérature dans leur enseignement de français. Donc j'ai voulu regarder de plus près comment ils faisaient, ce qu'ils en disaient, pour essayer de jeter, grâce à eux, les bases d'une didactique bidisciplinaire lettres et histoire, en me demandant si l'enseignement de la littérature n'avait pas à gagner à s'appuyer sur l'enseignement de l'histoire et à faire jouer une véritable bivalence, plutôt qu'une bivalence, on va dire, organisationnelle ou cloisonnée. Voilà. Alors, donc vous comprenez pourquoi le titre qui est emprunté au chapitre 5 de la précédente recherche de 2007, maintenant est assorti du sous-titre « Des humanitatis professoresses pour un enseignement bivalent de la littérature ». Voilà. Alors, cette recherche a mobilisé un certain nombre de cadres théoriques qui seront indiqués peut-être dans la bibliographie que je vous projetterai à la fin de mon intervention. Cadres théoriques pluridisciplinaires, je me suis appuyée sur l'histoire de l'éducation, sur les didactiques disciplinaires du français, de l'histoire, la didactique comparée et aussi la didactique de l'interdisciplinarité. Et bien évidemment, les sciences de l'éducation, dont on ne peut pas faire l'économie, bien évidemment, quand on est sur des élèves de milieux populaires. Voilà. Alors, rapidement, je vous retrace dans un premier temps un petit peu une lecture des programmes, des nouveaux programmes de 2009 qui tendent en effet à se modéliser, mais il faut prendre certaines précautions que je voudrais quand même pointer, qui tendent à se modéliser sur l'enseignement général. Alors, je vous propose une très brève historiographie de l'enseignement de la littérature en lycée professionnel. Alors déjà, l'enseignement de la littérature n'a de sens qu'à partir du 19e siècle et seulement pour une élite sociale issue des familles aisées, moins de 5% d'une classe d'âge à la fin du 19e siècle, et c'est même seulement 1% d'une classe d'âge depuis la Renaissance, si vous voulez. Le cadre de cet enseignement, c'est, avant d'être l'enseignement de la littérature, c'est l'enseignement des belles lettres. Donc on ne parle d'enseignement de la littérature qu'à partir du milieu du 18e. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le mot littérature a émané, et c'est très symbolique, du champ pédagogique. Il vient non pas du champ culturel plus large, il vient du champ pédagogique avec l'abbé Charles Batteux, qui a publié en 1747 le manuel des belles lettres. Et il va compléter son titre par « Principe de la littérature ». Voilà. Vous connaissez peut-être aussi la Harpe qui, à la charnière du 18e et du 19e siècle, va publier 18 volumes qui s'intitulent « Le lycée ou cours de littérature ». Donc on a vraiment l'idée que la littérature, c'est quelque chose qui s'enseigne dans un cadre scolaire, dans un cadre d'enseignement. Bien. Alors, la littérature n'apparaît pas dans les plans d'études du secondaire et au baccalauréat avant le 1840. Et comme je vous l'ai dit, elle reste essentiellement, bien sûr, l'apanage de l'élite sociale. De plus en plus, si on continue à notre raccourci un peu simpliste historique, la littérature va quand même se dégager de ces deux entrées privilégiées, l'histoire littéraire à la fin du 19e siècle et l'explication de texte. Et grâce aux apports du structuralisme, la littérature va être reconfigurée par genre littéraire, le roman, la poésie, le théâtre, et grâce aux théories de l'esthétique de la réception des années 80, on va s'intéresser de plus en plus aux lecteurs. Donc c'est-à-dire que la littérature n'est qu'un texte virtuel, et il doit être actualisé par un lecteur qui doit y trouver son parcours autonome et qui doit construire le sens du texte littéraire. Et cette avancée des années 80 est une aubaine parce que, du coup, la littérature va petit à petit se rapprocher des élèves qui en étaient privés initialement. Alors, deux types d'élèves. Il ne faut pas oublier les élèves de l'école primaire et penser que la lecture littéraire a été introduite dans les programmes du troisième cycle de l'école primaire en 2002. Mais aussi, la littérature va petit à petit progresser dans les programmes de l'enseignement professionnel. Alors, cette promotion, je peux vous la retracer aussi assez rapidement. Vous savez qu'à la création des CAP en 1945, on travaille exclusivement sur des textes qui ont un rapport avec la profession et donc il n'y a pas d'appui sur la littérature. Donc il s'agit de textes qui valorisent la valeur traditionnelle du travail. Ensuite, ça s'élargit un peu. Dans les années 50, on peut faire un peu de littérature dans l'enseignement professionnel parce que ça peut enrichir la vie personnelle et puis ça peut meubler les loisirs. Ce qui est déjà un progrès. Ça reste quand même un petit peu limité. Dans les années 60, il y a une critique assez virulente d'un enseignement professionnel qui pourrait simplement servir l'univers économique et industriel. Et cette critique profite quand même aux enseignements traditionnels tels que la littérature qui est de plus en plus convoquée mais sous forme de thématiques et à condition que ces thématiques fassent écho à des préoccupations humaines. Voilà, donne une vision du monde et de l'homme. Voilà. Alors, l'évolution va s'affirmer avec bien sûr la création des lycées professionnels et des baccalauréats professionnels. Dès 1995, les programmes placent sur un pied d'égalité, ce qui marque déjà un très grand progrès. Les œuvres, je cite, les œuvres représentatives du patrimoine littéraire, mais aussi des discours fonctionnels. Et les œuvres représentatives du patrimoine littéraire, je cite toujours, permettent l'approche de différents mouvements littéraires ou esthétiques. Donc, par contre, aucun mouvement littéraire et esthétique n'est cité, mais c'est une possibilité quand même d'enseignement qui est livrée aux enseignants. Voilà. Donc, cette évolution vers une plus grande part de la littérature dans l'enseignement du français en lycée professionnel est aussi portée, bien évidemment, par les enseignants des disciplines générales, puisqu'au début des années 90, 56% des enseignants des disciplines générales de l'enseignement professionnel sont titulaires au moins d'une licence et ils ont été formés de façon traditionnelle et ils ont été acclimatés à la littérature et donc ils souhaitent aussi en faire profiter leurs élèves. Donc il y a aussi la médiation des enseignants qui a joué. Alors, cette très brève historiographie vous étant retracée, je vous propose de regarder un petit peu de plus près ce qui se passe dans les nouveaux programmes et sur l'installation de la littérature en lycée professionnel. Alors, je vous ai préparé un petit tableau. Déjà, pour vous montrer qu'il y a une sorte de modélisation sur le lycée général et technologique. Donc, je vous demande de regarder surtout la deuxième et la troisième colonne. Mais j'ai également proposer un regard sur le collège et sur le CAP. Les chercheurs ont montré qu'il y avait trois types de configurations de l'enseignement du français et de configuration donc des programmes. Vous avez une configuration que moi j'ai intitulée niveau 1 ici, qui est l'humanisme classique avec la bipartition traditionnelle langue et littérature, c'est-à-dire que les prescriptions du programme, les discours officiels proposent le programme avec avec deux entrées, l'entrée littérature et l'entrée langue. Deuxième façon de présenter les programmes, on se base sur une théorie de la communication qui s'est développée dans les années 80, c'est-à-dire qu'on est sur des champs didactiques qui sont identifiés, la lecture, l'écriture, l'oral, donc c'est grosso modo lire, écouter, écrire, parler. Bon. Et troisième façon de structurer le programme, c'est bien sûr les compétences. Depuis les années 90, les compétences dont vous savez qu'elles souhaitent rendre visibles les différents processus d'apprentissage et les objets, les situations et les objets d'apprentissage, et donc d'en faciliter l'appropriation par les élèves grâce à cette lisibilité. Alors, si vous regardez la structuration des programmes de français des quatre segments du second degré, vous voyez que la théorie des compétences est essentielle sur le volet enseignement professionnel, mais si on regarde bien en lycée professionnel, l'apparition d'une bipartition classique langue-littérature est aussi importante et intervient en deuxième moment de la structuration, tandis que le troisième niveau de structuration, qui correspond pourtant au premier niveau du collège, lire, écrire, étudier la langue et dire, ne vient qu'en troisième partie et c'est souvent l'affaire plutôt des documents d'accompagnement plutôt que des programmes eux-mêmes. Alors, si on regarde plus précisément, alors je vous ai proposé un tableau peut-être aussi voilà, qui soit un petit peu plus précis. Donc ici, vous avez les programmes de français du baccalauréat professionnel. Alors, je ne sais pas si vous lisez bien, mais je vais vous les retracer rapidement. Vous voyez que nettement, ils sont quand même assez modélisés sur l'enseignement général, dans la mesure où vous avez explicitement un certain nombre de mouvements littéraires qui sont convoqués. Vous les avez en bleu, ces mouvements littéraires. Vous avez au choix Renaissance, XVIIe siècle avec le théâtre classique, la poésie avec l'esprit nouveau au début du XXe siècle. Vous avez ensuite le romantisme et le réalisme. Vous avez le surréalisme. Vous avez la philosophie des Lumières. Et puis, vous avez quelque chose de plus large, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts au XXe siècle. Bien. Et vous avez aussi une structuration par genre, c'est-à-dire que les élèves de lycée professionnel, ils ont aussi cette entrée par genre. Il faut qu'ils maîtrisent la notion de personnage de roman, personnage de théâtre, héros, anti-héros, genre, mais aussi registre, registre fantastique. Au niveau des genres, vous avez le récit d'anticipation, science-fiction, contre-utopie, le théâtre, le récit de voyage. Enfin, c'est ce que j'ai noté en jaune. Donc vous voyez qu'on est sur une entrée relativement modélisée par rapport au lycée général, avec vraiment une prescription d'enseigner les mouvements littéraires et d'enseigner aussi la littérature selon les genres. Alors, si je reviens, voilà. Alors, on va peut-être un petit peu peut-être modérer cela, puisque l'approche par compétences, comme je vous l'ai indiqué, est une approche quand même de niveau 1 et très marqueuse des programmes de lycée professionnel. En tout cas, ce que je viens de vous dire sur le baccalauréat professionnel, je voulais aussi souligner que c'est extrêmement différent au niveau du CAP, où on a l'impression que c'est plutôt la visée référentielle de la littérature qui est convoquée dans ces programmes, plus que sa spécificité proprement littéraire. Alors, que nous apprennent ces fameuses humanitatis professores sur l'enseignement de la littérature? Alors, l'hypothèse, c'est de considérer les professeurs de lettres histoire comme un petit peu les héritiers des humanitatis professores de l'Ancien Régime. Je vous rappelle que dans les collèges de l'Ancien Régime, il n'y a qu'un seul enseignement unifié. Les disciplines n'existent pas, les disciplines n'apparaissent qu'au XIXe siècle. Donc, un seul contenu d'enseignement est dispensé, c'est les humanités, et il constitue cet enseignement une seule et même chaire, assurée par un enseignant unique, c'est-à-dire l'humanitatis professor. En quoi consiste l'enseignement? Cet enseignement consiste dans l'étude des lettres antiques, des textes de l'Antiquité, que l'on commente et on extrait du texte tous les savoirs dans tous les domaines, y compris scientifiques, que l'on met au jour pour apprendre aux élèves une culture qui soit de l'ordre du général. Donc on peut se dire que les professeurs de lettres histoire qui exercent en lycée professionnel constituent peut-être une catégorie d'enseignants qui, d'une certaine façon, nous renvoie à ces humanitatis professores de l'Ancien Régime. Alors il faut quand même pointer les limites de cette filiation, son caractère quelque peu artificiel, puisque la survivance actuelle d'un corps enseignant qui est habilité à enseigner conjointement les deux disciplines dans un système éducatif français qui est fondé sur un fort cloisonnement disciplinaire, ce qui n'est pas le cas de tous nos voisins européens, ça a un petit peu de quoi surprendre, et ça ne vient pas véritablement en droite ligne de l'histoire de l'éducation sous l'Ancien Régime. Ce corps spécifique des enseignants bivalents, vous le savez, il est issu plutôt des instituteurs polyvalents qui enseignaient dans l'école primaire supérieure, et que lorsque les EPS, les écoles primaires supérieures, vont être constitués en collège d'enseignement technique, ils vont assumer justement les enseignements généraux et ils vont avoir cette double casquette d'enseigner à la fois le français et l'histoire. Donc, il s'adresse à un autre public que celui du secondaire général, donc des jeunes qui sont plus issus, bien sûr, de milieux populaires. Alors, malgré cette absence de filiation historique directe, malgré la différence des publics qui sont pris en charge, on peut quand même voir que ces enseignants présentent des traits caractéristiques de ces humanitatis professores, parce que d'abord, comme leurs prédécesseurs, ils se caractérisent par leur goût pour la culture classique, la solidité et l'étendue de leur savoir littéraire et historique, que leur pédagogie repose sur l'analyse de textes patrimoniaux. Ils osent la littérature, les écrits littéraires, ils privilégient les pratiques scripturales et finalement ce sont des enseignants qui sont les seuls à porter ce paradigme éducatif un peu traditionnel au sein du lycée professionnel. Et en plus, ils donnent une épaisseur sémantique toute nouvelle, toute contemporaine à leur appellation de professeur d'humanité, dans le sens où ils s'attachent effectivement à faire largement partager la culture humaniste, à la rendre accessible à tous, à des jeunes qui en sont culturellement très éloignés. Donc ils sont professeurs d'humanité moderne, parce qu'ils dispensent certes la culture humaniste par la prise en charge de deux disciplines tutélaires de cette culture, mais aussi parce qu'ils l'humanisent au sens qu'ils la rendent plus accessible à tous les élèves. Alors, ce modèle a pu être constitué en idéal type grâce à l'analyse d'un certain nombre d'entretiens dont vous aurez quelques extraits en deuxième partie dans nos ateliers. Où on a regardé de près la conscience disciplinaire de ces enseignants, c'est-à-dire comment ils avaient reconstruit leur discipline, et on s'est aperçu qu'ils avaient un degré très élevé, très élaboré de conscience disciplinaire, à la fois en français et en histoire. Ils étaient très au fait des finalités de la discipline, des activités, des supports, des marqueurs spécifiques de la discipline, et ils naviguaient avec relativement d'aisance d'une discipline à l'autre. Ils ont le souci de fonder leur pédagogie sur des pratiques littéraciées de haut niveau, et la plupart de ces enseignants, pas tous, certains sont un peu en construction encore, ils ont un degré de maîtrise des deux valences quasi équivalentes. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant à pointer, c'est comment ils sont devenus ces professeurs d'humanité assez complets. On s'est aperçu que de façon très autodidacte, ils arrivaient à équilibrer à peu près dans les trois années qui suivent leur début, ils arrivent en trois ans à rééquilibrer à peu près leur maîtrise dans les deux valences à partir de leur valence d'origine. C'est à peu près une durée de trois ans, mais ils disent qu'ils doivent énormément travailler la valence que je désigne comme valence basse, c'est-à-dire en général c'est le français. Mais au bout de trois ans, ces enseignants-là ont rétabli un équilibre. Et alors, il y a trois types d'enseignants. Il y a dans ces humanitatis professores, vous avez les novices, c'est-à-dire ceux qui sont justement en train de travailler la valence basse pour rattraper le degré de maîtrise. Mais on s'aperçoit que ce qui facilite les choses pour eux, c'est qu'ils ont déjà un goût de la littérature qui est avéré, qui s'est montré tout au long de leurs études. Vous avez les professeurs clairs, c'est-à-dire ceux qui, au bout de trois ans et plus, maîtrisent bien les deux disciplines et sont très à l'aise dans l'enseignement de la littérature en particulier. Et puis, ça, c'est une des grandes surprises de la recherche. Il y a quand même un quart des professeurs interrogés qui sont, alors je les ai appelés les convertis, c'est-à-dire que ce sont des historiens qui, à force de travailler leur valence littéraire, se sentent désormais plus professeurs de français que professeurs d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu plus qu'un rééquilibrage, c'est une véritable conversion, et ils ont changé d'identité. Il y a une sorte de mutation identitaire qui s'est produite. Je n'ai trouvé qu'un seul exemple d'un professeur de lettres à l'origine qui se sent désormais plus géographe. Donc, faut dire que faut être honnête, la conversion inverse peut exister, mais c'est plutôt la conversion du côté de l'histoire vers la littérature qui a l'air de jouer. Voilà. En tout cas, pour les professeurs que j'ai pu interroger. Alors, ceci étant, malgré cette expertise de ces enseignants qu'on a observés de près, on s'aperçoit qu'ils n'osent guère, sauf peut-être les convertis, oser faire des passerelles explicites entre le français et l'histoire. C'est-à-dire qu'ils cloisonnent leur enseignement, qu'ils sont compétents à la fois en français et en histoire, qu'ils sont très vigilants pour le rendre très visible à leurs élèves pour qu'ils ne se trompent pas d'une méthodologie à l'autre, mais finalement on a l'impression d'une bivalence qui est simplement ponctuelle, c'est-à-dire que les liens, les passerelles d'une discipline à l'autre, au mieux sont faites à l'oral, sans que ça soit systématisé, sans que ça se fasse l'objet d'une réflexion. Bien. Sauf pour les convertis, eux, ils peuvent oser, mais c'est quand même des cas très rares, ils peuvent oser même des séances bivalentes. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, comment aussi on peut enseigner la littérature lorsqu'on est historien et qu'une posture d'historien peut aider à promouvoir la littérature en lycée professionnel. Alors, ça sera l'objet de ma troisième et dernière partie. Alors, rapidement, donc cette double expertise de ces professeurs conduit finalement à essayer d'aller plus loin que les pratiques qui ont été observées chez eux et d'oser jeter les bases d'une didactique bidisciplinaire qui soit fondée sur la lecture du texte littéraire à la fois en français et à la fois en histoire, afin de revivifier et de renforcer cet enseignement de la littérature. L'objectif, c'est de donner aussi à voir la pratique d'une bivalence qui permette aux élèves d'être mieux au fait des spécificités disciplinaires, spécificités du français et spécificités de l'histoire, et de ne pas confondre les deux approches. Confusion que la bivalence peut malheureusement quelquefois produire. Alors, inutile de dire quel est l'intérêt, de lire le texte littéraire en histoire. Donc, lire le texte littéraire en histoire, c'est pas du tout instrumentaliser l'histoire pour la littérature. On s'aperçoit qu'avec la diversification des supports, le texte littéraire est de moins en moins convoqué comme document de support à la construction de la connaissance historique. Pourtant, il ne faut pas oublier que la didactique de l'histoire s'appuie non seulement sur les vestiges archéologiques, non seulement sur les documents primitifs, ce qu'on appelle aussi les quasi-documents, des documents qui sont reconstruits a posteriori par le regard de l'historien, mais il s'appuie de façon privilégiée sur des documents artistiques, dont des documents littéraires, et que la littérature est un objet privilégié de l'enquête historienne pour trois raisons rapidement. Parce que d'abord, la littérature est une pratique éminemment sociale, elle nous dit quelque chose des modes de socialisation de l'époque de son écriture, elle constitue donc une source très précieuse pour l'historien, et que sous des formes manifestes comme la littérature engagée, les genres biographiques, mais aussi sous des modèles fictionnels, elle reflète la conscience critique de son temps, elle informe donc des débats sociaux, culturels et politiques qui traversent une époque ou une société. Ensuite, la littérature contribue à la production des savoirs, notamment à l'époque moderne, des savoirs sociaux. Donc, peut-être que la bivalence a tout intérêt à s'interroger sur l'exploitation en histoire de la littérature afin de d'aider à la rendre plus accessible aux élèves. Concernant lire le texte littéraire en français, là je peux aller plus vite puisque c'est une activité matricielle de l'enseignement du français. La matrice du français, c'est bien de s'appuyer sur le texte littéraire. On ne va pas revenir sur la fameuse tension entre forme et sens. On oppose très volontiers une approche interprétative qui privilégie la poétique du texte, c'est-à-dire plutôt la forme, à une approche qui est plus attentive aux humanités, c'est-à-dire beaucoup plus son sens, les savoirs littéraires et culturels qui sont livrés par le texte. Et il semble que finalement la lecture littéraire en classe de français a vraiment tout à gagner à réinvestir la fonction référentielle du texte, qui est actuellement plutôt délaissée, alors qu'elle semble déterminante pour la construction par les élèves du sens et des références culturelles. Et cette construction est particulièrement indispensable pour nos lycéens de lycée professionnel qui n'ont pas à disposition ces inférences culturelles. Voilà. Donc privilégier cette approche marque une authentique fidélité au paradigme de la pédagogie humaniste, on pourrait dire, qui a pour ambition de dégager véritablement ce que dit le texte littéraire de l'homme et du monde. Donc si l'on combine l'herméneutique littéraire et l'herméneutique historique, on peut espérer un certain nombre de gains vis-à-vis des élèves de lycée professionnel. Le gain de provoquer une véritable rencontre avec des textes littéraires patrimoniaux, dont la qualité, la complexité artistique nécessitent de toute façon une certaine inventivité didactique pour leur faire découvrir. On peut aussi espérer stimuler et accompagner la posture distanciée dans un contexte bidisciplinaire, c'est-à-dire que le texte littéraire peut être d'abord étudié en histoire comme un texte fonctionnel qui va livrer des savoirs culturels pour en éclairer justement les référents historiques, littéraires, etc. Et ensuite, il est revisité dans le cadre d'une lecture analytique en français afin de consolider les savoirs et d'aider les élèves à construire aussi une posture de lecteur critique autonome. Bien. Également, le croisement des deux approches est également susceptible de dynamiser le processus de lecture pour une autre raison. Les élèves n'ont pas nécessairement un rapport identique au sein des disciplines littéraires avec le français et l'histoire. Donc, tel lycéen qui est mal à l'aise dans une des disciplines peut s'épanouir davantage dans l'autre. Et les entretiens des lycéens ont montré que une relation favorable à l'histoire peut faciliter l'accès aux textes littéraires et que son goût pour l'histoire peut justement l'entraîner à s'intéresser davantage au français. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai. Bref, peut-être mettre en place cette combinaison herméneutique littéraire et herméneutique historique permettent de faire lire les textes littéraires comme des monuments qui ont à la fois une valeur historique, une qualité esthétique intrinsèque, mais aussi des documents, c'est-à-dire des instruments qui aident à mieux lire et à mieux comprendre le passé. Alors, fort de cette ébauche d'une didactique bidisciplinaire pour lire un texte littéraire grâce à une double approche en français et en histoire qui soit respectueuse des spécificités épistémologiques et didactiques de ces deux disciplines, un dispositif expérimental a été mis en place dans trois classe, une classe de lycée professionnel de section industrielle, une classe de collège en zone d'éducation prioritaire et une classe de lycée général qui accueille un public mixte. Trois textes ont été étudiés d'abord à une heure en histoire pardon, et ensuite une heure en français. Alors, les trois textes qui ont été sélectionnés sont volontairement représentatifs de la culture humaniste traditionnelle. Un texte de François Rabelais, la fameuse lettre de Gargantua à Pantagruel, extraite de son ouvrage Pantagruel, qui est une sorte de manifeste de l'enseignement humaniste. Une lettre de Diderot à Voltaire concernant la publication de l'encyclopédie et pour montrer la vivacité de l'héritage humaniste qui est déjà porté par les Lumières, une lettre de Victor Hugo à Lamartine autour de son projet des Misérables écrite depuis son exil à Guernesey. Donc, le dispositif a eu lieu sur une séquence d'environ 6 heures où chacun des deux textes littéraires était étudié alternativement dans les deux disciplines. Alors, le bilan que l'on peut faire de ce dispositif. Alors, il est contrasté au niveau de la classe de lycée professionnel, c'est-à-dire que le recueil des productions écrites sur la lecture littéraire des élèves est plus limité que dans les autres classes où les productions écrites sont plus abondantes. Ce n'est pas forcément non plus une grande surprise. C'était également lié aux différences de passation. Au niveau des connaissances des élèves, c'est le texte de Rabelais que les élèves de lycée professionnel ont le mieux appréhendé, avant celui d'Hugo, et celui qui a été le plus complexe pour eux, c'est bien sûr celui de Diderot. Les entretiens qui ont été menés auprès des élèves de lycée professionnel sont beaucoup plus encourageants. Un certain nombre d'élèves montrent des écrits très stabilisés, dont certains relèvent même d'un rapport épistémique assez élaboré avec le français et l'histoire, et la compréhension et la restitution du texte de Rabelais s'avère très complète et vraiment à la hauteur de certaines productions du lycée général. Par contre, également, c'est là où il y a le plus d'élèves qui ont eu beaucoup de mal à remobiliser leurs connaissances et à tirer profit de ce dispositif. Alors, ce qui est quand même positif, c'est que même les élèves dont on n'a pas l'impression qu'ils aient tiré un grand profit de cette double lecture se disent favorables à cette double approche en histoire et en français. Cela les a beaucoup intéressés et cela a, comment dire, produit chez eux une véritable attitude de curiosité. Donc, d'une certaine façon, c'est le point le plus réussi de cette mise en place du dispositif bidisciplinaire. Dernière satisfaction, la satisfaction des enseignants. Les enseignants se sont beaucoup impliqués dans ce dispositif parce que ils ont dit que non seulement ils avaient que les cours avaient réussi à intéresser leurs élèves, mais que eux, du coup, ils étaient plus au clair sur les spécificités de chacune des disciplines, qu'ils avaient aussi progressé quant à l'appropriation de l'épistémologie et de la didactique des deux disciplines. Alors, quelles sont les perspectives, donc je ne vais pas tarder à conclure, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour peut-être proposer un enseignement de la littérature en lycée professionnel qui soit à la fois plus efficace et qui soit mieux pris en charge par l'ensemble des enseignants. Alors, peut-être revoir peut-être le principe que de commencer par l'éclairage historique systématiquement. Finalement, demander aux enseignants de commencer par un éclairage historique, ça nous renvoie en miroir qu'on est dans une conception de posture de lettré et que l'approche littéraire s'avérerait dans un premier temps peut-être plus stimulante parce qu'on s'aperçoit que c'est ce qui a le plus intéressé les élèves et qui les a fait rentrer dans le texte littéraire, c'est la relation entre les deux acteurs et les deux personnages en présence dans le texte, à savoir pour Rabelais le lien de paternité entre Gargantua et entre son fils Pantagruel, ou les liens d'amitié qui sont tissés entre Lamartine et Hugo, ou alors entre Diderot et Voltaire. Et finalement, c'est par ce biais-là que la lecture littéraire s'est construite et que d'une certaine façon, on a pris en compte, l'intérêt psycho-affectif premier et majoritaire des élèves de lycée professionnel pour les aider à rentrer dans une lecture plus distanciée. C'est-à-dire que c'est par le biais des relations sociales et des relations de filiation qui renvoient à leur vécu immédiat, qui renvoient à leur expérience immédiate, que la meilleure construction de la lecture du texte littéraire s'est opérée. Et que d'une certaine façon, en regardant de près la manière dont nos élèves de lycée professionnel lisent des textes littéraires exigeants, ça, c'est d'eux peut-être que l'on peut tirer une méthode et des principes pour les aborder. Et finalement, on peut aborder des textes très exigeants avec eux, peut-être par ce biais-là, en respectant cette façon, j'allais dire un peu naturelle, d'aborder le texte littéraire par leur expérience, vraiment leur expérience personnelle. Voilà.